continuer dans notre thématique « Enseigne-nous à prier ». La semaine dernière, on a vu cette facette de la prière, prier pour chercher Dieu. Et c'était le psaume 63, et nous avons effectivement les uns et les autres, c'est normal. Nous avons toutes sortes de besoins, mais nous avons vu dans les semaines passées qu'en plus de nos besoins terrestres, humains, matériels, nous avons aussi toutes sortes de besoins spirituels, et que c'est important de savoir, par la grâce de Dieu, discerner au travers des besoins, parce qu'un besoin peut en cacher un autre, un besoin matériel peut cacher un besoin spirituel plus urgent et plus important. C'est important de savoir discerner, de pouvoir reconnaître les besoins spirituels et même de les demander à Dieu. L'apôtre Jacques dit, par exemple, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donnera sans compter, sans reproche, mais qu'il la demande avec assurance. Et puis, dans ses besoins, la semaine dernière, on a vu, j'ai toujours pas de PowerPoint, on a vu que parmi ses besoins spirituels, le plus grand de tous les besoins spirituels, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est Dieu dans notre cœur. Alors, je ne dis pas que la présence de Dieu, vous ne la connaissez pas. Je dis simplement qu'il y a des dimensions dans la présence de Dieu et qu'on peut toujours, par sa grâce, on peut toujours développer, on peut toujours aller plus loin dans sa grâce, dans sa présence, puisque notre plus grande richesse, le besoin avec un B majuscule, le besoin par excellence, le besoin au-dessus de tous les autres, c'est la présence de Dieu. Et on a vu dans le psaume 63 que la priorité de David, c'est « Je te cherche » alors qu'il est dans un contexte d'adversité. Le premier réflexe, verset 2, c'est « Je te cherche dans cette terre aride, desséchée, sans eau. Seigneur, mon âme a soif de toi. Mon âme est attachée à toi. J'élève mes mains en ton nom parce que je ne veux pas seulement recevoir quelque chose de toi, Seigneur. Mais ce que je désire en réalité, c'est ce contact, c'est ce cœur à cœur, c'est que tu me prennes dans tes bras, c'est être dans tes bras, spirituellement parlant. Je ne veux pas, Seigneur, quelque chose de toi, mais Seigneur, ce que je veux, c'est toi. » Et on va être ce soir un peu dans la même pensée en ajoutant des pensées complémentaires. Et c'est là qu'on ouvre et qu'on lit ensemble le psaume 27. Et le titre du message de ce soir, si jamais ça ne s'affiche pas, le titre du message de ce soir, c'est « Je demande, c'est de la prière, à l'Éternel une chose que je désire ardemment ». C'est dans le psaume 27 et on lit la totalité du psaume parce qu'il n'est pas très long. « L'Éternel, psaume de David, verset 1er, psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. » De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ici ce n'est pas du cannibalisme, c'est une image, c'est une métaphore pour dire qu'on lui en veut à mort. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, car il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur les ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Aie compassion de moi, ce serait certainement mieux en termes de traduction. Aie compassion de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, ah, on y revient encore, cherchez ma face. Alors je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas ton serviteur avec colère, car tu es mon secours. Tu ne me laisses pas, tu ne m'abandonnes pas, Dieu de mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. C'est une formule purement rhétorique, hein. C'est pas une question, est-ce que je verrai, est-ce que... Non, non, c'est une façon de s'exprimer, on s'exprime dans le monde rabbinique, dans la pensée sémitique, on s'exprime beaucoup par question. Mais c'est une évidence, c'est une façon pour lui de dire, je suis sûr que je verrai la bonté de Dieu. C'est juste une formule rhétorique. Ah, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. On a ici un contexte d'adversité, de difficulté. Encore une fois, on retrouve, ici on ne sait pas quel est le contexte exact. Il y a certains psaumes où on connaît le récit exact qui se rattache au psaume. Mais ici, on ne le sait pas. Quoi exactement ? En réalité, même si on l'ignore, ce n'est pas important. On sait juste que ce que David traverse est réellement préoccupant, même tragique humainement parlant. Dès le verset 2, des méchants qui m'en veulent la mort. Verset 3, c'est du langage hyperbolique, métaphorique, mais quand même quelque part aussi réel, parce qu'à un moment, c'est vrai, autant Saül qu'Absalom avaient dressé des armées contre lui, une armée, une guerre, les ennemis qui m'entourent, verset 6, il y a pas mal, autant d'hyperboles, de métaphores par moment, de vérités par moment, mais pour nous faire comprendre, peu importe la forme de la difficulté, pour nous faire comprendre que la situation à laquelle il fait référence est très sérieuse. Et là, ici, une fois de plus, le problème n'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, puisque on sait, on voit, ici David le confesse encore, combien de fois l'omnipotence de Dieu, la toute-puissance de Dieu, le Dieu qui est infini, qui est sans limite, qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on est capable de concevoir, va se manifester et va être évidente dans la prière du psalmiste. La priorité de David, c'est que son cœur... Ah chouette, merci. Ah non, non, pas merci. Image suivante. J'allais dire, j'ai un bon génie là-bas à la table. Presque, j'ai un demi-génie. La priorité, c'est que mon cœur reste toujours dans la foi et dans la paix. David, si vous avez bien fait attention dans le psaume, il commence en parlant de son cœur et il termine en parlant de son cœur. C'est là que la peur et la crainte, ou que la foi et la paix vont s'installer. Mes frères et sœurs, c'est un combat acharné. C'est un combat à la vie, à la mort. Soit mes peurs finiront par avoir raison de ma foi, soit ma foi finira par avoir raison de mes peurs. Mais c'est toujours là, à l'intérieur, que ça se passe. Et il faut absolument que l'un des deux triomphe dans l'adversité, puisque souvent des commentateurs ont donné à ce psaume comme titre « Le triomphe de la foi dans l'adversité », et ce qui est un titre excellent, évidemment. David, l'homme selon le cœur de Dieu, une fois de plus, est parfaitement lucide sur ses véritables besoins. Et la première chose qu'il me montre ici, c'est qu'il a une bonne relation, bonne au sens de correctement fondée, une bonne relation avec Dieu. Une relation qui est fondée sur ce que Dieu est et non pas sur ce que Dieu fait ou donne. L'Éternel est ma lumière. Il est question d'emblée, d'entrée de jeu, une fois de plus comme tant de fois. Il est question ici en vérité. Ouais, super, ça y est, du coup maintenant j'ai un vrai génie là-bas à la table de Sono. Merci beaucoup, on va rester sur cette image. Priorité à la... Ah non, c'était peut-être l'image d'avant. Merci frère. Voilà. C'est ça, bon, on ne bouge plus, voilà, c'est parfait. Une bonne relation, c'est-à-dire verset premier, une relation qui est fondée sur ce que Dieu est. David commence par cela, l'Éternel est ma lumière. La première chose que Dieu a fait lorsqu'il a voulu créer les cieux et la terre, avant toute chose, avant n'importe quel processus de création, de restauration, de consolation, de victoire, peu importe, le besoin premier en tout temps et en toutes circonstances, c'est le besoin de lumière. J'ai besoin, mon cœur a besoin d'être éclairé. S'il n'y a pas de lumière, il ne peut rien se passer derrière. La lumière reste toujours le premier besoin en toutes circonstances. Dans le psaume 13, quand David, et c'est pour ça que j'aime énormément les psaumes, parce qu'il y a des moments, c'est vrai qu'on les voit, on voit David et tant d'autres, ils sont là un peu comme sur des nuées, sur des sphères. Ce n'est pas des grandes déclarations, hein, c'est vraiment sincère. Ils, leur cœur, ils vivent des choses avec Dieu fortes. Mais même si le ciel est dans nos cœurs, nos pieds sont quand même bel et bien sur la terre. Et puis, à des moments, ben, comme a dit Fred en introduction, et oui, la mauvaise nouvelle, on l'a prise en pleine face et évidemment, c'est compliqué. Et dans le psaume 13, David, dans un moment qui est compliqué encore pour lui, là, il commence à en avoir marre. Parce qu'il y a des moments, c'est long. Et là, il dit, jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand mon ennemi va-t-il s'élever contre moi ? Jusqu'à quand est-ce que je vais avoir du chagrin et des soucis dans mon âme ? Jusqu'à quand ? Trois fois, quatre fois, jusqu'à quand ? Mais il se ressaisit et il comprend une fois de plus, parce que David reste toujours lucide sur ses véritables besoins. Et David, après avoir dit quatre fois, jusqu'à quand ? David fait cette prière, il dit, Seigneur, donne à mes yeux la clarté. Parce qu'il faut absolument que je puisse voir la situation, Seigneur, comme toi tu la vois. Mon premier besoin, peu importe qui, quoi, où, quand, comment, il faut absolument que je sorte de la vulnérabilité, des ténèbres, de la peur, de la crainte, du jugement, du manque d'amour, de n'importe... J'ai besoin que Dieu me permette de voir la situation avec ses yeux à lui. J'ai besoin d'être éclairé. Mon premier besoin, ton premier besoin, mon frère, ma sœur, c'est toujours un besoin de lumière à l'intérieur. Peu importe ce qui se présente devant toi, donne à mes yeux la clarté. L'Éternel est ma lumière. Et ce qui me permet de chasser les ténèbres, de la peur, de la crainte, de l'inquiétude, du découragement, tout ça, ce sont des ténèbres dans lesquelles l'ennemi de nos âmes nous rend tellement vulnérables. Tout est une histoire de lumière. Tout dans la vie spirituelle, avant toute chose, est une histoire de regard. Un jour, vous savez que j'ai été en Normandie pendant 7 ans. Et pendant mes 7 années de ministère en Normandie, il m'est arrivé plus d'une fois d'aller regarder, d'aller visiter les plages du débarquement. Et c'est vrai que quand on est sur ces lieux-là, quand on va au cimetière américain, quand on est à Omaha Beach, quand on voit des lieux comme ça, c'est tellement imprégné, chargé d'histoire, il y a tellement de sang qui a coulé sur ces plages que forcément, plus d'une fois, on m'en a parlé, j'y suis allé, des anciens m'ont fait le récit de ce qu'ils avaient vécu. Puis un jour, j'ai entendu un reportage à ce sujet. Et puis là, ils interviewaient deux anciens militaires, deux anciens américains, pardon, qui étaient deux anciens combattants, merci, qui vraiment ont participé au débarquement. Ils interviewent le premier, et le premier, il dit, ça m'a toujours marqué, le premier, il dit, quand on est descendu des bateaux, et qu'on était là sous le feu des bunkers allemands, et que je voyais mes compagnons d'armes tomber les uns après les autres, que la plage était plus rouge que beige, et que je voyais mes camarades tomber les uns après les autres, qu'on avait un mal fou, et que, quand je suis là, j'ai été tellement découragé. Il dit, j'étais tellement découragé, je me suis dit, c'est fichu, c'est un traquenard, on s'en sortira jamais. Personne ne sortira vivant de ce traquenard, on est foutu. Et le témoignage d'après, ils interviewent un autre soldat qui, lui, était en soutien dans les forces aériennes. Et là, lui, il dit, quand je suis arrivé avec mes camarades et qu'on a commencé à voler, survoler, qu'on faisait des passages et encore des passages, il dit, en moi-même... Je savais qu'on avait la victoire. Quand j'ai vu les forces en présence, j'ai dit, c'est impossible qu'on ne s'en sorte pas. C'est impossible que les Allemands gagnent, c'est impossible que les forces nazies nous détruisent, c'est obligé, on va y arriver, on va s'en sortir. Comment est-ce qu'on peut... Et il y en a un qui voit les choses d'en haut. Et ça m'a toujours marqué. Et dans la vie spirituelle, bien aimé, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. La question... C'est ton regard. Comment est-ce que tu vois la chose ? Est-ce que tu vois la chose d'en bas, cernée par l'impossibilité humaine ? Ou est-ce que ton âme élevée dans la prière, éclairée par la lumière de l'Éternel, va pouvoir considérer la chose d'en haut et t'apercevoir que dans la perspective de la toute-puissance de Dieu, ce dont je lui parle finalement est bien peu de choses pour lui. Et tout est comme ça, en vérité, bien aimé, une histoire, en fait, de regard. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que David, une fois de plus, image suivante, non seulement a une bonne relation fondée sur ce que Dieu est, et non pas dépendante de ce que Dieu fait ou donne. Il est fondé sur ce que Dieu est. Et là, ensuite, de nouveau, comme dans le psaume 63, un réflexe de vie, priorité absolue à la présence de Dieu. Verset 4, « Je demande à l'Éternel. » Il est dans la panade. Il est dans une panade, mais une panade. Je vous ai montré le dimanche le genre de situation que David a traversée. Plusieurs tragédies que vous et moi, on ne souhaiterait même pas à nos pires ennemis. Enfin, on ne risque pas de leur souhaiter puisqu'on aime nos ennemis, n'est-ce pas? Il est dans une panade. Et la première chose qu'il dit, je demande à l'Éternel une chose. Il n'a pas dit « Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, règle-moi ce problème. » Tous les sujets sont légitimes. Bien sûr que Dieu veut me sortir de... Mettez ce que vous voulez. Mais dans son être intérieur, il y a cette tension d'une âme assoiffée vers la présence de Dieu. Il dit « Je demande à l'Éternel une chose. » Jésus dit à Marie, il dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu as de la bonne volonté, tu es gentille, tu veux me servir, mais tu es remplie de toi-même, tu es occupée, tu es suroccupée, tu es fatiguée, tu es fatigante, tu fais que de te plaindre de l'autre qui n'est pas... Ah, c'est bon, Marthe, s'il te plaît. Marthe, Marthe, une seule chose est nécessaire. » Lorsque je vous en avais parlé rapidement, lorsque Dieu se présente à Salomon, on avait parlé des besoins spirituels. Lorsque Dieu se présente à Salomon, un roi, chapitre 11, et Dieu lui apparaît et lui dit « Salomon, demande-moi ce que tu veux et je le ferai. » Une chose. Et là, Salomon demande la sagesse, l'intelligence. Vous connaissez ce récit. Il s'est intéressé à la nature de Dieu. Il s'intéresse à ce que Dieu est. Il s'intéresse à la lumière de Dieu, à la sagesse de Dieu, à la patience de Dieu, à l'amour de Dieu, à la miséricorde, à la compassion de Dieu, à la présence de Dieu, sous toutes ces facettes aussi diverses et variées qu'elles sont présentées dans l'Écriture. L'Éternel est ma lumière, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter, et là on a le même verbe yashab qui signifie, comme dans le psaume 22, qui signifie s'installer, demeurer. Et chaque fois que vous voyez, bien aimé, dans l'Ancien Testament, chaque fois que vous voyez notamment les psalmistes parler du tabernacle, du sanctuaire, des parvis, de la tente, de la demeure, de la maison de Dieu, tout ça, c'est un langage imagé pour eux, pour exprimer leur soif de la présence de Dieu. Puisque à l'époque de l'Ancienne Alliance, je fais un tout petit aparté théologique, à l'époque de l'Ancienne Alliance, il n'y a pas la nouvelle naissance. On n'est pas scellé du Saint-Esprit, on n'a pas en nous les arts de l'Esprit. Et on a encore moins la plénitude du Saint-Esprit, on a encore moins le baptême de l'Esprit. Et comme on n'a pas cette communion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une communion permanente et ininterrompue avec Dieu, avec Jésus, par le Saint-Esprit, on n'a pas ça. Donc le seul endroit où l'on peut rencontrer Dieu, ben c'est de façon très sporadique, très ponctuelle, c'est simplement quand on va au temple. Et puis c'est vrai que nous, c'est marrant, je fais une parenthèse, on a gardé un petit peu « Seigneur, je viens dans ta maison ». Mais l'allée de la fourmi, ce n'est pas la maison de Dieu. Hein. C'est juste un bâtiment qui est très joli, je l'aime beaucoup, franchement. Mais c'est un bâtiment qui est simplement nécessaire pour le rassemblement des disciples. Mais sa maison, dit l'Épître aux Hébreux, c'est nous. L'Église, c'est nous. Alors des fois, on dit « Ah Seigneur, je viens dans ta maison ». C'est toi la maison de Dieu. C'est encore mieux. Mais eux, dans leur langage à eux, tout ça, ce sont des mots, des langages, un langage imagé dans l'Ancien Testament pour désigner la présence de Dieu et leur soif de la présence de Dieu parce qu'ils ne vivaient pas comme nous avons la possibilité, ils n'avaient pas la possibilité de cultiver, de chérir, d'entretenir, de développer la présence de Dieu en eux. Ils n'avaient pas ça. Ça ne leur était pas donné. Ça nous est donné à nous. Donc, ils exprimaient souvent leur soif. De plus, leur soif de cette présence, d'habiter, de demeurer, parce que David disait « Mais moi, Seigneur, je veux pas seulement des bribes ou des moments de ta présence de temps en temps. » Il dit « Seigneur, mais moi, je veux vivre toute ta présence, je veux connaître toute ta présence. C'est ta présence que je veux, Seigneur. Je veux te contempler, je veux admirer son temple, c'est-à-dire je veux vraiment admirer cette présence de Dieu en moi et la vivre, mes yeux bien fixés sur lui. Je veux pas connaître, Seigneur, ta présence. » de temps en temps, dans un petit moment qui sera un petit peu plus qu'un autre, on ne sait pas trop pourquoi, ou j'aurai peut-être une petite émotion supplémentaire. Non, Seigneur, je veux, ça m'est donné à moi aujourd'hui, chrétien, disciple, privilégié de la nouvelle alliance. J'ai un accès à la présence même de Dieu depuis que le voile a été déchiré quand Jésus a expiré. Le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Ce voile qui était lourd, qui était tellement épais, qui séparait du lieu très saint que seul le souverain sacrificateur, une fois l'an, pouvait aller dans le lieu très saint, c'est-à-dire le lieu de la présence même de Dieu. Jésus, lorsqu'il a expiré ce voile, qui était lourd, qui était épais, c'était comme s'il y avait marqué en gros « interdiction ». Personne ne rentre dans la présence de Dieu. Dieu mettra simplement des bribes et des gouttes de sa présence. Il ouvrira le ciel de façon ponctuelle pour saisir des auteurs qu'il va inspirer pour sa parole, pour quelques manifestations. Mais quand Jésus vient, alors qu'il n'est encore même pas mort et ressuscité, Jésus dit « désormais, vous verrez le ciel ouvert ». Et c'est après ça que David soupirait, après ce ciel ouvert à cet accès libre et permanent à la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, j'espère que par nos pensées, par nos conceptions, par nos paroles, par notre façon d'être, notre façon de vivre, par nos doutes, j'espère que j'ai peur que parfois, même dans nos églises dites évangéliques, on recouse le voile. Jésus a déchiré le voile, c'est pour que tu vives chaque jour dans la présence même de Dieu. Alors je ne dis pas qu'on a des frissons et qu'on plane, on n'est pas des huluberlus, mais entre des gens qui ne vivent que par émotion, je ne vis pas par émotion, je marche par la foi, on est d'accord. C'est ce que la parole de Dieu dit. Des fois, la présence de Dieu, je la ressens très fort. Puis à des moments, moins, mais c'est normal, je marche par la foi et pas par les émotions. Mais entre des gens qui prétendent, qui planent tout le temps, et des gens qui, excusez-moi, encéphalogramme plat, non, le Seigneur a déchiré le voile. Et il a fait ce qu'il avait à faire pour que je vive dans la beauté, dans la richesse de sa présence. Et David soupirait après ce que nous, nous sommes censés avoir aujourd'hui. Alors, ayant vécu ça, forcément, David, là, il va rentrer dans cette... la présence de Dieu, avant de parler du verset 6, la présence de Dieu, verset 5, je relis avec vous simplement ce verset. « Il me protégera dans son tabernacle, c'est-à-dire sa présence. » C'est ça ma véritable protection au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Sa présence sera un refuge pour moi. Il m'élèvera sur un rocher. C'est ce que fait la présence de Dieu. Et déjà ma tête s'élève sur les ennemis qui m'entourent. Et la réalité que David est en train de décrire avec ses mots à lui ici, c'est que la présence de Dieu en nous, frères et sœurs, elle nous élève. La présence de Dieu, avant de renverser tes Jéricho, la présence de Dieu avant d'agir dans tes circonstances, la présence de Dieu, elle voudrait élever ton âme au-dessus des tempêtes, au-dessus de la mer agitée. Déjà, il m'élèvera sur un rocher, verset 5, c'est-à-dire que je vais prendre de la hauteur sur les circonstances. Et cette présence de Dieu va faire cet effet en moi qu'elle va me permettre de vivre mieux au-dessus de l'agitation. Un rocher, pourquoi ? Ben parce qu'un rocher est synonyme de stabilité. C'est un synonyme d'éternité. Les rochers, les falaises sont là depuis... Nous, nous sommes passagers. Qu'est-ce que l'homme sur cette terre ? Voilà la vie d'un homme à l'échelle de la terre et de l'humanité. Un souffle, une vapeur qui passe, dit la parole. Cette présence, elle va m'élever par ce rocher qui est bien sûr Christ. Le rocher est un symbole de Christ, le rocher des siècles, le rocher qui ne chancelle pas, pardon, lui qui n'est jamais inquiet. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir, ça, quand des fois il y a des nouvelles. Plus le temps passe, plus j'apprends, lorsqu'il y a des nouvelles qui sont humainement parlant, inquiétantes, contrariantes, plus j'apprends à me dire, mais Seigneur, tu n'es pas seulement omniscient, c'est pas seulement que tu sais tout, c'est aussi que tu es prêt. Sion, tu savais d'avance. Et toi, Seigneur, tu n'es pas déstabilisé. Ton royaume est éternel. Ton trône est inébranlable. Le rocher, même si des vagues considérables se sont abattues, le rocher n'a pas bougé. Le royaume de Dieu est éternel. Son trône est inébranlable. Et je me dis, Seigneur, mais c'est moi qui suis déstabilisé. C'est moi qui suis ébranlé dans mes convictions. Mais toi, Seigneur, qui peut t'ébranler ? Qui ne peut ne serait-ce que t'inquiéter un instant ? Et je me dis, Seigneur, t'es pas surpris. Alors moi, quand on m'a dit ça,
comme on dit, je suis tombé de haut. Hein.
Mais toi, Seigneur, tu n'es jamais étonné, jamais surpris par quoi que ce soit, jamais inquiet, jamais déstabilisé. Ça, c'est mon Dieu. Alors j'ai envie d'être non seulement sur le rocher, j'ai aussi envie d'être dans le creux, dans l'intimité du rocher. Déjà, ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. Déjà, le Seigneur est en train de me faire dominer par la foi dans l'être intérieur. Il commence à m'élever par sa présence et il me fait dominer sur les circonstances contraires. C'est ça que ça veut dire. Et pour l'instant, la situation à l'extérieur n'est toujours pas réglée dans ce que David est en train de vivre, peu importe ce qu'il vit à ce moment-là. Mais à l'intérieur, il se passe de bonnes choses. Je suis en train de grandir. Et c'est ça la véritable croissance, frères et sœurs. La véritable croissance, c'est pas quand Dieu a guéri, il guérit, amen. C'est pas quand Dieu a pourvu, Yahvé Jiré pourvoit, amen. C'est pas quand Dieu a calmé une tempête, c'est pas... Non, la vraie croissance, c'est quand tu marches sur la mer déchaînée. La vraie croissance, c'est quand ton âme, par la présence de Dieu, s'élève au-dessus des ennemis qui t'entourent. La vraie croissance, c'est quand tu es patient, là où il n'y a pas de raison humainement parlant d'être patient. C'est quand tu es sage, là où... C'est quand tu es miséricordieux, lorsque tu es compatissant, lorsque tu es plein de grâce, lorsque tu es plein d'amour, alors qu'il n'y avait humainement parlant pas de raison. Je suis élevé par la présence de Dieu. Le but de Dieu au travers de l'épreuve est en train de s'accomplir. L'adversité trouve tout son sens. Je suis en train de grandir spirituellement. L'adversité, c'était son but. L'adversité m'a rapproché de Dieu. La louange, évidemment, verset 6, indépendante des circonstances, j'en avais parlé, je ne m'étale pas sur ce point. C'est bien la preuve, quand on loue Dieu en toutes circonstances, que notre relation avec lui est bien fondée, qu'on est fondé sur le « je suis » et non pas sur le « je fais ». C'est la même chose que dans le psaume 63, « Mes lèvres célèbrent tes louanges », etc. Et puis ce petit point qui va être, ce dernier point, qui va être un point commun aussi avec ce qu'on voit le dimanche, on a parlé du sentier de la justice. Là, on en a un autre exemple. Évidemment, verset 7, David dit « Je t'invoque, exauce-moi et compassion de moi » parce que si Dieu travaille l'être intérieur, bien sûr qu'il veut agir à l'extérieur. David en est conscient. La foi, c'est absolument pas du déni. J'ai le ciel dans le cœur, mais je le redis, j'ai les pieds bien sur la terre. J'ai le cœur dans le ciel, le ciel dans mon cœur, mais je ne mets pas la tête dans le sable. Dieu m'élève, il me fait grandir. Mais après la croissance intérieure, vient aussi les interventions de Dieu à l'extérieur. Et David le sait. C'est pour ça qu'il dit « Je t'invoque, exauce-moi et compassion de moi. » Parce que je sais de toute façon, Seigneur, que tu as nécessairement une solution. Et c'est pour ça qu'il me faut cette solution. Il me faut ta solution. C'est pour ça qu'il est encore question une deuxième fois de « chercher ma face ». Mon cœur dit de ta part « chercher ma face ». Alors je cherche ta face, ô Éternel. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, je vais chercher la face de Dieu, non pas pour me réfugier, je vais chercher la face de Dieu pour écouter. Pour écouter ce qu'il a à me dire et la façon dont lui veut régler cette situation. Seigneur, apprends-moi à parler seulement quand c'est le bon moment. Seigneur, apprends-moi à me taire. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Seigneur, apprends-moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Déjà, il faut que ce soit tes mots et pas les miens. Les tiens, Seigneur. Parce que les miens, ça fait bien longtemps que j'ai compris qu'ils ne convaincraient jamais personne. Même si c'est ficelé, que A plus B est démontré égale C. Ça ne convaincra jamais personne. Mais je sais que tes mots à toi, Seigneur, ils peuvent pénétrer un cœur. Parce que ta parole est vivante, efficace et plus efficace qu'une épée à double tranchant. Seigneur, il faut que ce soit tes mots à toi. Et il faut que ce soit tes mots au bon moment, au moment opportun, au moment où la personne est réceptive. Vous ne trouvez pas, frères et sœurs, excusez-moi de le dire ainsi, mais que dans nos contacts avec nos amis, nos collègues, nos familles, nos enfants, ce que vous voulez, le nombre de fois où on a parlé, puis c'est rien passé. Excusez-moi, on s'est surtout pris des gadins, on s'est repris des retours de manivelle terribles. Pourquoi ? Parce que, Seigneur, j'ai besoin aussi d'apprendre à écouter ta voix, V-O-I-X, et de comprendre ce que tu veux que je dise au moment où tu veux que je le dise. Et là, à partir du moment où David est à nouveau fortifié par la présence de Dieu, c'est pour ça qu'il n'en sort pas tout de suite et qu'il dit encore « Je cherche ta face, ô Éternel, parce qu'il faut maintenant que je te cherche pour écouter et que tu me dises, et c'est là qu'on en revient au sentier de justice, c'est là qu'on en revient au sentier de droiture. Seigneur, pour que tu me dises, comment est-ce que je dois me conduire ? Verset 11. Enseigne-moi ta voie, V-O-I-E, enseigne-moi ta voie, conduis-moi. C'est pas Seigneur, je vais faire, bénis ce que... Non, non, non. Seigneur, je vais dire, bénis ce que je vais dire. Non, il s'agit, Seigneur, de ta voix, de ce que tu veux que je fasse, de ce que tu veux que je dise. Enseigne-moi ta voix et conduis-moi dans le sentier de la droiture. Et comme j'en ai touché un tout petit mot dimanche, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. C'est quoi le lien? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? À cause de mes ennemis. Ben, tout simplement pour ne pas devenir comme eux. Si c'est pour que je devienne, par des réactions charnelles, ce que je réprouve chez les autres, si c'est pour que je finisse par agir comme eux ils agissent, quoi ça sert? Si c'est pour leur donner le bâton pour me battre, leur donner des arguments, leur donner du pouvoir, leur donner de la puissance sur moi, à cause de mes ennemis. Enseigne-moi le sentier de la droiture à cause de mes ennemis, afin surtout de ne pas devenir comme eux, afin surtout de ne pas agir comme eux, parce que je suis enfant de Dieu. Et ma vocation, c'est d'être un chrétien. Les disciples étaient des chrétiens. Et parce qu'ils étaient chrétiens, ce qui a donné chrétien, ensuite, c'est parce qu'ils... On les a appelés ensuite chrétiens, mais au début, ils n'avaient pas de nom. C'était les disciples. Mais comme dans l'église primitive, on a regardé ces gens. On a dit, c'est incroyable, ces gens, ils aiment comme Jésus. On n'aime pas leur Jésus, on l'a crucifié. Mais on est obligé de reconnaître. Ils aiment comme Jésus. Ils s'aiment comme Jésus. C'est fou, parce qu'ils parlent comme Jésus. C'est incroyable, parce qu'ils pardonnent comme Jésus. Parce qu'ils ont des solutions du ciel comme Jésus. Soit on va les appeler les chrétiens. Et c'est comme ça que les disciples ont été appelés chrétiens, ce qui a donné ensuite chrétiens, parce qu'ils avaient une voie de droiture dans ce monde romain qui était encore un monde de persécution. Et dans l'église primitive, on en reparlera dimanche, dans l'église primitive, qu'est-ce qu'il y a eu comme vague de persécution et encore maintenant? Enseigne-moi le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Je ne veux pas devenir, je ne veux pas agir, je ne veux pas finir comme eux, je ne veux pas vivre leur sort et je ne veux surtout pas leur donner du pouvoir sur moi. David, dans l'adversité, a une bonne relation à la présence avec Dieu. Il a une priorité absolue qui reste la présence de Dieu. Il a une vie de louange indépendante des circonstances et il continue à chercher Dieu pour savoir comment se comporter afin de vraiment faire la différence en tant qu'enfant de Dieu. Et dans ces conditions, je ne suis absolument pas surpris qu'il ait dit au verset 13 et au verset 14, c'est sa conclusion. Oui, mais dans ces conditions, dans les conditions qu'on vient d'évoquer, oui, je suis sûr, je le tourne à l'affirmatif, oui, je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Il a parlé de lui, il. Et là, d'un seul coup, verset 14, il me regarde, il me tutoie, il change. Et là, il n'est plus en train de parler de ce que Dieu... Là, il me regarde directement. Et là, il me dit, espère en l'Éternel. Ça devient de l'impératif, deuxième personne du singulier. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et dans ces conditions, il me dit, si moi, dans l'ancienne alliance, avec tout ce que je n'avais pas, j'ai vu la puissance et la gloire de Dieu sur la terre des vivants. C'est comme s'il me regardait, moi, 3000 ans après, il y a 3000 ans entre David et nous, hein, 3000 ans après, et qu'il me dise, toi, espère en l'Éternel, affermis-toi, mets ça en pratique, parce que tu as tout, moi j'avais pas tout, mais toi tu as tout pour vivre ça, et tu vas vivre la gloire de Dieu. Amen. On se recueille s'il vous plaît. Que Dieu soit béni.